Nous allons donc nous préparer à recevoir notre premier enseignement dans le cadre de notre séminaire, dont le thème est la restauration de l'autel. Alléluia. Je voudrais, une fois de plus, demander à chacun de vous d'incliner simplement sa tête devant le Seigneur. Une fois de plus, demander au Seigneur de pouvoir te parler, en particulier toi qui es là. Car ce soir, le Seigneur voudrait s'adresser certes à la foule, mais aussi et surtout, il voudrait s'adresser à chacun de nous comme individu, à chaque personne ici présente. Alléluia. Alors, prépare-toi, mon frère, ma sœur. Prépare-toi à recevoir ce que Dieu a préparé pour toi à l'occasion de ce séminaire. C'est une opportunité merveilleuse qu'il nous accorde de pouvoir prendre l'échelle qui conduit jusque là où il est. Nous aimerions tout au long de ce séminaire laisser vraiment Dieu nous interpeller, laisser Dieu agir dans nos cœurs, laisser Dieu nous révéler le véritable sens, l'importance, la nécessité, l'urgence de restaurer son autel pour pouvoir entrer dans une relation avec lui beaucoup plus intime, beaucoup plus profonde, une relation qui va nous préoccuper plus que toute autre chose au monde, une relation qui déterminera les différentes grâces qu'il a prévues pour chacun de nous. Seigneur, nous voulons te remercier pour cette première soirée de notre séminaire autour de ce thème ô combien important de la restauration de l'autel. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir tout fait pour que ce séminaire soit une réelle bénédiction pour chacun de nous, pour tous les participants, mais aussi pour tous ceux qui nous suivront, Seigneur, à travers les différents médias. Merci d'avoir été avec nous durant la préparation de ce séminaire. Le moment arrive maintenant, Seigneur, où nous voulons recevoir quelque chose qui vient de toi. Où nous voulons, Seigneur, que l'onction de ton esprit descende non seulement sur ta parole, non seulement sur ton serviteur, mais sur chacun de nous qui sommes présents ce soir dans ta maison. Tu as quelque chose à nous révéler, Seigneur. Tu as quelque chose à nous communiquer. Voilà pourquoi nous voulons te demander, Seigneur, en toute humilité, de pouvoir disposer nos cœurs à recevoir cet enseignement comme étant une parole revêtue d'autorité, comme étant une parole qui descend tout droit de ton cœur et qui est habilitée à transformer, à métamorphoser nos vies. Aide-nous, Seigneur, à profiter au maximum de cette occasion merveilleuse que tu nous accordes, d'être instruit par toi, le docteur par excellence, Seigneur, à propos de l'autel, de sa place dans la relation avec toi, de la place, Seigneur, que ce lieu occupe dans notre vie et parmi nous. Car à chaque fois que nous nous rassemblons, tu veux que ton autel soit dressé parmi nous. Tu veux, Seigneur, que ton autel soit là, car c'est à l'autel que tu communies avec ton peuple. C'est à l'autel que tu te révèles. C'est à l'autel que tu donnes à l'homme de réaliser que tout n'est que grâce de ta part et de se souvenir de là où nous venons et de réaliser le présent, mais aussi de nous préparer pour le futur. Bénis ta parole, sanctifie-la, Maître. Que cette soirée d'aujourd'hui, qui n'est qu'un début, puisse déjà, Seigneur, nous entraîner, ô Dieu, dans la voie que tu as tracée par rapport à ce séminaire. Que cette première soirée soit déjà une occasion pour nous d'expérimenter l'ouverture de ton ciel et la descente sur chacun de nous, de ce feu après lequel nous languissons tous, de ce feu que nous aimerions voir embraser ton église, la borne, de ce feu que nous aimerions voir à l'œuvre, Seigneur, dans toutes les églises qui se réclament de toi, de ce feu que nous aimerions voir embraser les différents ministères que tu donnes à ton Église, embraser les différents serviteurs et les différentes servantes, pour que tous ensemble, la main dans la main, les yeux fixés sur toi et le cœur en flamme, nous puissions faire avancer ton char, faire avancer ton règne, faire avancer ton royaume. Merci Jésus. Sois loué, sois béni. Pour ta gloire, mais aussi pour l'amour que tu as pour chacun de nous. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Bien, je rends grâce à Dieu. Ça vaut la peine vraiment de l'acclamer. Parce que avec tout ce qu'il y a eu, gloire au Seigneur. La restauration de l'autel. Voilà donc notre thème de cette fois-ci, qui sera le dernier séminaire avant la reprise du mois de septembre, dont nous aurons presque un mois de répit, pouvoir nous reposer un peu. Et à la rentrée, eh bien, nous allons nous lancer dans ce programme d'escalade, d'alpinisme spirituel. Nous allons donc escalader différentes montagnes, et croyez-moi, au sommet, dans les hauteurs de toutes ces montagnes, il y aura toujours quelque chose pour chacun de nous. Il y aura toujours une révélation à recevoir de sa part. Gloire à Dieu. La restauration de l'autel. Aujourd'hui, je voudrais commencer par la fin de notre séminaire. C'est-à-dire, aujourd'hui, je voudrais montrer à chacun de nous la nécessité, l'importance et l'urgence de comprendre d'abord et avant tout la place que l'autel est appelé à occuper ou qu'il occupe dans notre relation avec le Créateur. Et en même temps que chacun de nous comprenne quant à l'urgence, quant à la nécessité de pouvoir s'impliquer dans la restauration de cet autel, dans le rétablissement de cet autel, dans la rénovation de cet autel, car il y va, mes amis, de notre bénédiction, il y va de notre bonheur, de notre victoire, de notre réussite, bref, il y va de notre marche avec le Seigneur. Alléluia. Mais avant de voir, à partir de deux textes, un de l'Ancien Testament et un du Nouveau Testament, voir l'importance que l'autel occupe dans la révélation de Dieu aux hommes, dans la révélation de Dieu, dans la communion de Dieu avec son peuple, j'aimerais d'abord m'attarder un tout petit peu sur la définition, sur ce que nous entendons par restauration. Il est toujours important de se poser des questions par rapport aux termes que nous utilisons pour essayer de comprendre les différents sens, les différentes nuances qui entrent en résonance par rapport à ce mot-là, pour mieux apprécier l'idée, le concept que le mot draine avec lui. Autrement, nous risquons de passer à côté de la vérité. Restauration, c'est un mot que nous trouvons dans différents contextes, un mot avec un champ sémantique très vaste. Selon le contexte, eh bien, ce mot va avoir tel ou tel autre sens. C'est pourquoi il est donc important que dès le départ, nous puissions être d'accord quant au véritable sens que la Bible donne à ce mot restauration. Alléluia. Afin que chacun de nous, quel que soit son arrière-plan, que chacun de nous sache exactement le sens que nous donnons à ce mot, le sens que ce mot transporte et transportera tout au long de notre séminaire. Quand je cite, j'invoque ce mot « restauration », quelle est la première pensée qui vous traverse l'esprit? Bien, ça dépend. Si vous êtes passé à un restaurant avant de venir, vous pourriez penser à la restauration. Comment vous vous êtes restauré dans ce restaurant-là? Oui ou non? C'est normal, c'est un sens. Donc, restauration, ben, ça peut évoquer l'idée du métier de restaurateur. Et le restaurateur, c'est celui qui fait manger les gens. Oui ou non? Voilà. La restauration, eh ben, c'est l'art, c'est le métier de celui qui fait manger les gens. C'est aussi un sens. Ou alors, la restauration, selon le domaine dans lequel on le prend, ou on l'utilise, peut avoir d'autres sens. Je vais en épingler juste quelques-uns. Et puis ensuite, nous avancerons. Par exemple, en architecture ou en construction. Quand on parle de restauration d'un immeuble, quand on parle de restauration d'un bâtiment, eh bien, on parle d'une opération qui consiste donc à remettre en état un immeuble ou un bâtiment vétuste. Oui ou non? Voilà. Donc, la seule manière de combattre la vétusté du bâtiment ou de l'immeuble, ben, c'est de le rénover. C'est de le restaurer. Amen. Ça, c'est en construction. Donc, pour un architecte, pour quelqu'un du métier de la construction, ben, voilà la restauration. Et quand vous êtes quelque part et que vous entendez deux architectes, deux ingénieurs en construction, deux ou trois maçons qui parlent, oui, mais cette restauration-là nous a pris beaucoup de temps, vous penserez en quoi? À la rénovation d'un immeuble, d'une maison, etc. Donc, ça, c'est en architecture ou en construction. Et en informatique, on retrouve aussi ce mot-là. Restaurer les fichiers qui ont été abîmés, oui ou non? C'est aussi une opération de rétablissement de la forme première, de la forme originale des fichiers qui ont été abîmés. On le restaure, oui ou non? Eh bien, vous allez en lettres, en littérature plutôt, vous allez retrouver ce mot-là, la restauration des livres, etc. En métallurgie, on retrouve aussi ce mot et on l'utilise. Lorsqu'il s'agit, par exemple, d'améliorer certaines, propriétés mécaniques des métaux ou des alliages, eh bien, on utilise ce mot dans certaines conditions. Le réchauffage, enfin ceux qui ont fait un peu la métallurgie, ou alors l'irradiation. Bref, en métallurgie, la restauration a aussi un, vous voyez, selon le domaine. Et quand nous arrivons dans la Bible, il est aussi question de, alors, quel sens donner au mot restauration lorsque nous l'utilisons dans le cadre de notre séminaire, c'est-à-dire dans le contexte biblique. Eh bien, peu importe l'usage de ces termes, peu importe le contexte dans lequel on l'utilise, eh bien, ce terme transporte avec lui, et toujours, une idée qu'on retrouve un peu partout, l'idée qui est donc de réparation, de rétablissement, de rénovation, de réfection. Que ce soit en métallurgie, que ce soit en informatique, il y a toujours cette idée de réparation. C'est-à-dire quelque chose au départ qui est abîmé et qu'on doit réparer. Il y a toujours derrière cette idée de destruction et puis on vient pour rénover. Il y a toujours derrière cette idée de vétusté et qu'on va combattre, eh bien, en recourant à la rénovation, en recourant donc à la restauration. En d'autres mots, restaurer, se remettre en bon état. Alléluia. Restaurer, se rénover. Restaurer, se rétablir. Restaurer, se consolider. Parler donc de la restauration de l'autel dans le contexte de la parole de Dieu. Et dans le contexte du séminaire qui est le nôtre, c'est donc parler, mes amis, de la remise en bon état. C'est donc parler du rétablissement de l'autel. C'est donc parler de la remise à l'honneur. C'est donc parler de la réparation de l'autel, de ces lieux, mes amis, qui occupent une place tout à fait singulière, une place importante, une place essentielle dans la relation de l'homme avec son Créateur. Gloire à Dieu. C'est donc parler de cette communion-là. C'est donc parler d'une proximité entre d'une part l'homme et d'autre part son Créateur. Et entre les deux, il y a l'autel. Et l'autel n'est pas vide. Et comme nous allons le voir à partir de demain, eh bien à chaque fois qu'il est question de l'autel, il y a toujours une triade. Un groupe de trois réalités. Il y a donc l'offrant, le sacrificateur, oui ou non, qui doit offrir le sacrifice sur l'autel. Il y a le sacrifice ou l'offrande. Et enfin, il y a celui à qui on offre. Alléluia. Donc, nous trouverons toujours cette triade. Passez-moi l'expression. Cet ensemble de trois réalités. D'un côté, l'offrant ou le sacrificateur. De l'autre côté, Dieu. Et entre les deux, il y a quoi? Il y a l'autel. Et sur l'autel, il y a quoi? Il y a une offrande. Voilà. Ça, nous en parlerons davantage demain. Mais aujourd'hui, je voudrais simplement, à partir de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament, montrer à chacun de nous l'importance et la place tout à fait singulière que l'autel occupe dans la relation de Dieu avec son peuple. Et le but donc de ce séminaire, eu égard de toutes ces significations que je viens de mettre en évidence par rapport, ou souligner, par rapport à ce terme restauration, le but est de faire comprendre chacun de nous, de faire prendre conscience à chacun de nous de la nécessité, par rapport à notre relation avec Dieu, la nécessité, le besoin, l'urgence de restaurer, mes amis, ce lieu sans lequel aucune communion intime ne pourrait prendre place entre nous et celui qui est là devant nous, celui qui est en nous, à savoir le Seigneur. Amen. Prendre conscience et consolider cet autel-là. Il occupe une place importante et nous allons le voir. L'autel, mes amis, est une réalité toujours en rapport avec la relation de l'homme avec Dieu et vice-versa. Et puisqu'il en est ainsi, nous allons, à partir de deux textes, tirés, un, de l'Ancienne Alliance, nous allons voir que même dans l'Ancienne Alliance, c'est-à-dire celle qui a précédé la Nouvelle, l'autel y occupait une place importante. Et puis ensuite, nous irons dans la Nouvelle Alliance, dans le Nouveau Testament, et là aussi nous verrons que l'autel est bien présent, que tout s'est passé sur l'autel. Alléluia. Gloire au Seigneur. Commençons avec l'Ancien Testament. Il y a beaucoup de choses, je reviendrai sur certains textes. On essaiera de revenir jusqu'au début, à partir du livre de la Genèse, et petit à petit, nous verrons là-bas comment ces différents autels ont joué un grand rôle dans la relation, dans la communion de Dieu avec son peuple. Mais j'ai pris celui-ci parce qu'il est parlant. Parce qu'au travers de ce texte, nous allons voir la nécessité du rétablissement de l'autel et des conséquences plus que merveilleuses que cela entraîne. Non seulement pour celui qui rétablit l'autel, mais aussi pour celui qui assiste à cette manifestation de puissance, conséquence du rétablissement de l'autel, mais aussi conséquence d'avoir posé sur l'autel un sacrifice selon la parole de Dieu. Nous allons lire dans le premier livre des Rois, 1 Rois, chapitre 18. Nous allons commencer au verset 30. Et je voudrais déjà que nous puissions escalader un tout petit peu le mont Carmel. Nous aurons l'occasion de l'escalader comme il faut. Mais aujourd'hui, c'est une petite escalade. Voyez-vous, juste aller rejoindre l'homme de Dieu, le prophète Élie, à un moment bien particulier de l'histoire d'Israël. 1 Roi 18, à partir du verset 30. Nous lisons. Élie dit alors à tout le peuple, alors qu'ils étaient tous rassemblés, celui qui les avait rassemblés, parce qu'il avait affaire à un peuple indécis, un peuple qui claudiquait, un peuple qui clochait, un pied dedans, un pied dehors, etc. Il les amène au mont Carmel, où il dit, d'accord, voilà, venez, nous allons voir qui de Baal, ou de Dieu, ou de Adonai, de Yahweh, est véritablement Dieu. Verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, à qui la parole du Seigneur avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec des pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils le firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. C'était pour qu'il y ait ombre d'aucun soupçon. Que les autres, les adversaires d'Élie, ne puissent pas soupçonner un petit feu qui s'est caché quelque part. Vous voyez? C'est ça. Puisqu'avec Dieu, il n'y a pas de tricherie. On n'a pas besoin d'aider Dieu. On n'a pas besoin de cacher sa boîte d'allumettes. Il dit, tu vois, à un certain moment, tu me caches, tu me distrais un peu. Oh, tchac! Non. Avec Dieu, on n'a pas besoin de tout cela, mes amis. Il est pleinement suffisant lui-même. Alléluia. Et au moment, nous dit la Bible, au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, il s'adresse au Seigneur, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu. » Et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Alors, en réponse à la requête, à la prière d'Élie, le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Excusez-moi. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent la face contre terre et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Quel dénouement merveilleux, extraordinaire. Quelle issue glorieuse pour le Dieu d'Israël. Quel déversement de puissance pour amener ce peuple indécis, ce peuple qui ne savait plus où il était, ce peuple complètement distrait. Ce peuple vivant, marchant dans la confusion, quelle puissance pour les prendre là où ils étaient, enchaînés par l'incrédulité, enchaînés par l'idolâtrie, et les amener à confesser devant les prophètes de Baal que c'est le Seigneur, que c'est Yahvé, que c'est Adonai qui est Dieu. Amen. Formidable. Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de savoir que le Dieu de la borne est le seul véritable Dieu? Pensez-vous qu'aujourd'hui, l'Église n'a pas de défi à relever devant elle? Pensez-vous qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas besoin de voir comment? La démonstration de puissance qui atteste que Jésus n'est pas seulement celui qui a agi dans le passé et qui agira dans le futur, mais qu'il est aussi celui qui agit maintenant et aujourd'hui. Tant de défis à relever. Tant de défis, mes amis. Comme nous allons le voir dans la suite, il est du devoir de chaque génération d'avoir un signe vis-à-vis du monde, un culte, vis-à-vis du monde, un croyant, un signe qui atteste la véracité de la parole de Dieu, qui atteste l'actualité de la puissance du Seigneur, qui atteste que Jésus est véritablement ressuscité. Vous ne pouvez pas vous appuyer sur des évidences du passé. Le Dieu que nous servons s'appelle Je suis. Alléluia. Et nous ne devons pas toujours nous appuyer sur ce qu'il a fait hier. Et je voudrais que la vie d'Élie, mes amis, puisse nous inspirer. Élie n'a pas raconté les merveilles que Dieu avait faites à l'époque en Égypte. Et il n'a pas rappelé au peuple d'Israël, voyez, ce Dieu vous avait délivré d'Égypte par sa force toute puissante. Voyez, quand vous êtes arrivé en face de la mer Rouge, il avait ouvert les eaux de la mer Rouge, n'est-ce pas? Voyez, il avait envoyé ceci, voyez, il avait fait ceci. Non, il s'est interdit de le faire, car sa confiance, sa foi, c'était dans le grand Je suis. Certes, le passé peut nous instruire. Certes, nous pouvons chercher l'inspiration dans le passé, mais nous ne devons jamais nous asseoir sur le passé. Alléluia. Vous et moi, nous devons démontrer à cette génération que Jésus est encore vivant. Nous devons dire aux gens, Jésus agit encore aujourd'hui. Qu'il est capable de délivrer. On m'a rapporté un témoignage, je ne sais pas si la personne est là, qui s'est passé en prison. Papa Timothée, où? Je ne sais pas si les aumôniers de nos amis de la prison, l'homme qui était venu, qui est sorti de prison, parmi les gens qui s'étaient avancés après avoir fait l'appel, parmi les gens qui avaient donné leur bracelet et qu'on avait brûlé, voyez, un s'est rappelé qu'effectivement il portait ça, on lui avait donné, je ne sais pas, pour lui donner le fétiche, etc. Mais ça n'a jamais eu d'effet. Le Dieu d'Élie est passé par là. La borne a organisé simplement une action pour dire à ses prisonniers que Jésus est encore le même aujourd'hui. Aujourd'hui, ce prisonnier est sorti. Il est même venu jusqu'ici, on m'a dit que le mardi, il était là. C'est que son petit bracelet n'a pas pu faire. C'est que son féticheur n'a pas pu accomplir. Le Dieu de la borne l'a fait. Nous avons besoin de voir Jésus aujourd'hui. Nous pouvons nous tourner vers le passé, saluer l'apôtre Pierre, saluer l'apôtre Paul, et nous inspirer de la manière dont ils ont marché pour vivre les expériences qu'ils ont vécues, aller voir Paul à travers ses lettres, et voir comment Dieu l'a conduit, et puis, c'est tout. C'est à nous. Les gens ne croiront pas en Jésus parce que nous leur aurons parlé de Paul, de Pierre, de Jacques. Pas du tout. Les gens croiront parce qu'ils auront vu. Les gens croiront parce qu'ils auront vu Jésus à l'œuvre. Aujourd'hui, Seigneur, démontre-leur que c'est toi, toi qui as été avec Abraham, toi qui as été avec Isaac, toi qui as été avec Jacob, oui, mais tu es, pas tu étais. Tu vas réduire. Tu es le Dieu d'Israël. Tu es le vrai. Seigneur, s'il te plaît, quand il se tient l'homme seul, face à une centaine, à quelques centaines de prophètes de Baal, face à un peuple rebelle, il est seul. Oh, comme notre pasteur avait l'habitude de le dire, un homme avec Dieu est une main. Il n'a pas regardé au groupe. Il n'a pas regardé au nombre. Il a laissé ce prophète, je reviendrai un tout petit peu sur ce texte, ce prophète invoquer leur Baal. Rien n'a bougé. Il s'est même moqué d'eux. Il dit, mais poussez encore des cris, très fort. Criez encore davantage, peut-être qu'il dort. Peut-être qu'il est en train de prendre son petit somme. Une petite sieste, il a été... Réveillez-le! Rien. Ils ont commencé à faire des danses rituelles, jusqu'au point de se faire des incisions, de se tailler le corps, mes amis, jusqu'à verser le sang. Aucune goutte de sang de ces prophètes de malheur ne pouvait ouvrir le ciel. La seule goutte qui a ouvert le ciel, c'est celle qui est tombée à Golgotha. Comme nous le verrons, c'est là que le véritable autel a été dressé. Car lorsqu'il a posé sa vie sur cet autel, la Bible nous dit que la terre a tremblé. La Bible nous dit que les ténèbres sont tombées sur la terre. La Bible nous dit que les morts, les tombeaux se sont ouverts. Pas le sang de tous ces prophètes de Baal. Mes amis, le sang de celui qui est le même encore aujourd'hui. Vous voyez, notre responsabilité, c'est de montrer, c'est de prouver aux gens que Jésus est encore vivant. Non pas en venant avec des livres, vous savez. Mais Paul avait prié, hein. Mais, frère, il faut croire, Paul avait prié, un malade était guéri. Bien, il avait prié, mais moi j'ai besoin de guérison maintenant. C'est ça le problème. Gloire à Dieu. Un homme, Eliaou, c'est-à-dire Élie, qui veut dire l'Éternel, Adonai, Yahweh, et Dieu. Tout son nom était déjà un message. Rien que par sa présence, eh bien, il proclamait que celui qu'il servait était le seul et véritable Dieu. Cet homme seul, seul sur les hauteurs du Carmel, en face, mes amis, d'un peuple rebelle et idolâtre, en face d'un peuple dur de cœur, avec des oreilles obstruées par l'idolâtrie, devant des prophètes orgueilleux de Baal, qui étaient sûrs que Baal répondrait. Voyez-vous, c'est pourquoi ils n'ont pas hésité à venir aussi relever les défis, prouver à Élie que leur Dieu était aussi une grande divinité, étant donné qu'elle était adorée, qu'elle était célébrée à travers tout le bassin méditerranéen. En face de tout ce genre-là, un homme seul qui s'adresse au peuple avec un courage extraordinaire. Il ne stresse pas. Peut-être qu'ils vont me lapider, non. Aucune tension. C'est l'expression de la foi dans sa pureté. Alléluia. C'est la foi qui atteint de sommet culminant. Il est sûr de ce qu'il dit. Il n'hésite pas. Il ne tourne pas. Il s'est dit, oh là là, ici il ne répond pas. Il était sûr. D'où lui venait cette confiance? Pour ceux qui étaient tout au long de la préparation de ce séminaire, vous se souviendront. D'où lui venait cette confiance? Rappelez-vous. Le Seigneur, le Dieu d'Israël, devant qui je me tiens. Cet homme se tenait d'abord devant Dieu, avant d'aller se tenir devant les hommes. Il était d'abord avec Dieu dans le secret. Il était d'abord avec Dieu, mes amis, dans la prière, dans sa présence. Et quand il sortait, alors Dieu pouvait être avec lui. Ayant cette conviction que Dieu est avec lui, et qu'il est dans sa volonté, alors il n'hésitait pas à mettre ce Dieu. Comment ? À lui lancer un défi. Seigneur, tu es Dieu. Maintenant, prouve à ces gens-là. Un homme a osé, après avoir rétabli l'autel, a osé, mes amis, défier les armées des ténèbres. Il a osé défier l'enfer, l'incrédulité, l'idolâtrie, avec une foi calme et audacieuse. Le prophète de Dieu a résisté, mes amis, à cette heure des ténèbres, à cette heure critique de l'histoire d'Israël. Il était seul, mais il savait que celui qui était avec lui était plus fort que tous les prophètes du monde entier rassemblaient. Que celui qui était avec lui s'appelle le Tout-Puissant, le guerrier redoutable. Il savait que si lui entrait dans ce combat, l'issue était connue d'avance. Il a invoqué. Résultat, le feu est descendu. Le feu est tombé. Le feu a consumé totalement, entièrement, l'holocauste, l'offrande, ce taureau qui était là sur l'autel. Dieu attestant par là qu'il venait d'agréer l'offrande de son serviteur. Dieu exauce la prière. Pourquoi? Parce que Élie a cherché la gloire de Dieu. Il n'a pas cherché à se mettre en évidence. Il n'a pas cherché à être reconnu. Certes, il dit, ils sauront que je suis serviteur. Mais il ne se met pas en avant. Je suis esclave. Il n'y avait pas de quoi attraper un gros coup quand on était esclave quelque part. C'était même une honte, oui ou non. Il a mis Dieu en avant. Il a mis Dieu en évidence. Qu'il sache une prière faite derrière l'autel rétabli. Derrière l'autel, mes amis, rétabli, restauré, selon la parole de Dieu. Mes amis, aujourd'hui, l'Église est confrontée à toutes sortes de défis. L'Église fait face à toutes sortes d'obstacles. L'Église est ballottée. On essaye de la défier. Ne serait-ce que dans notre ville de Kinshasa, nous sommes de plus en plus défiés. Des gens qui avaient été gagnés il y a 20, peut-être 30 ans d'ici, quand Dieu travaillait encore, sont en train de revenir à ce qu'ils avaient vomi. N'est-ce pas un échec pour nous? Ils sont en train, mes amis, de retourner à leur vieille religion, à leur vieille croyance. Ils sont en train de reculer. Ce sont des défis à relever. La violence, comme nous en avons parlé le dimanche, l'idolâtrie, le péché sous toutes ses formes, tout cela, ce sont des défis que l'Église doit relever. Le monde demande des preuves concernant la présence de Dieu parmi son peuple. Alors, ils ont parfaitement droit de nous demander, mes amis, un signe qui leur montre que Jésus est encore vivant. Alors ne dites pas à vous, vous êtes incrédule, vous êtes maudit. Non, c'est leur droit. Les religions, même monothéistes, nous observent. Les sorciers nous observent. Ils veulent voir que celui qui est avec nous est vraiment tout-puissant. Ils veulent voir qu'effectivement Jésus n'a pas changé, qu'il guérit encore aujourd'hui. Ils veulent voir que Jésus, aujourd'hui, il est encore capable de délivrer un démoniaque. Il est encore capable d'ouvrir des portes là où personne n'a jamais osé ouvrir. Il est capable de visiter une femme stérile et de lui donner un enfant, de lui susciter une postérité. Il est capable. Mais tout cela, mes amis, les gens veulent voir. Pas simplement leur disant, oui, la Bible dit, dans les évangiles, Jésus a fait ceci. Tout cela est vrai. La génération de Jésus, la génération des apôtres, a été un signe pour leurs contemporains. Partout où ils allaient, ils ne se reposaient pas sur ce que Jésus avait fait avant sa mort. Oui ou non? Ils prêchaient l'évangile, on leur apportait les malades, ils priaient pour les malades, et les malades étaient... Voilà. Ils ne passaient pas leur temps. Ok. Il est démonisé. Ok. Vous savez, un jour, dans le témoignage que le Seigneur nous a laissé, après avoir été rempli du Saint-Esprit, après son baptême, hein, peut-être que vous ne le savez pas, c'était dans le Jourdain, la Bible, le témoignage qu'il nous a laissé, écoutez-moi bien, c'est qu'il était rempli du Saint-Esprit, il a été conduit par le Saint-Esprit, le diable l'a tenté, il a résisté, il a vaincu le diable. Il a vaincu les démons qui te tourmentent, ok. Et puis la Bible nous dit, quand il est parti, il est arrivé en Galilée, il est entré dans une synagogue de Nazareth,
Il a lu la parole de Dieu, il a dit, l'Esprit du Seigneur m'a oint.
M'a oint pour guérir les cœurs brisés. Il m'a oint pour délivrer les captifs. Tu es captif.
Voilà ce que Jésus a fait. Non seulement il a dit ça, mais après, toujours en Galilée là, toujours en Galilée, eh bien, il est allé chez Pierre. Pierre, où est-ce que tu es? Tu te souviens, Pierre? Ta belle-mère était malade, non?
Ah oui, je me souviens très bien, Jean.
Mais le Seigneur lui avait imposé les mains, non?
Oui. Ils auraient pu passer tout leur temps à raconter les merveilles, les miracles que le Seigneur avait fait. Cela n'aurait servi à... À la limite, les gens leur auraient dit, écoutez, donnez-nous seulement les écrits, nous-mêmes nous allons lire. Donnez-nous, c'est tout. Mais entre-temps, moi je suis toujours démonisé. Mais entre-temps, ma hanche, là, je n'ose pas marcher.
Qu'est-ce que tu dis de ton Jésus? Oui, mais il peut te guérir. Mais voilà, le monde a le droit de demander des signes qui attestent que Jésus est encore le même aujourd'hui.
Que ce que nous disons au monde, qui nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute l'autorité et la puissance du diable, eh bien, ils ont besoin de voir et de vivre cela. Nous voir effectivement libérer les captifs. Prier pour les démoniaques et voir les démoniaques libérés.
Ça, c'est notre devoir. Et chaque génération a ce devoir de laisser des empreintes vivantes, des traces vivantes que Jésus est passé par là.
Alléluia. Et non pas de vouloir ramener les gens dans le passé. Ou plutôt de leur parler du futur quand il reviendra. Il dit attention, la trompette sonnera.
On a déjà eu à parler de ça. Hein? Oui, c'est bien, la trompette sonnera, mais entre-temps.
Moi, je veux qu'elle sonne maintenant.
Ah oui. Moi, j'ai besoin de travail. Je veux que ces dieux-là, que tu me présentes comme étant tout-puissant, me trouvent du travail.
La trompette sonnera, c'est très bien. Mais c'est peut-être dans 30 ans, dans 40 ans et tout ça. Mais moi, je ne vais pas attendre 30 ans pour avoir du travail.
Vous voyez, mes amis, tant de défis. Notre génération doit avoir, mes amis, sa propre preuve de la majesté et de la puissance de Jésus-Christ. Nous devons avoir des preuves. C'est notre devoir. Pas simplement nous reposer sur les guérisons que le Seigneur a effectuées au travers de son serviteur Jacques Verneau. Il y a eu tous ces gens-là. Les David Wilkerson et tant d'autres sont passés. C'est à nous aujourd'hui.
Alléluia.
C'est à nous que revient la responsabilité.
Ouais. Dieu ne ressuscitera pas Paul pour qu'il revienne faire le... Non. Vous comprenez pourquoi? Dieu, quand il appelle Josué, il lui dit, mon serviteur Abraham est mort. Moïse plutôt, oui. Moïse est...
Pourquoi il lui dit ça? Vous pensez que lui ne savait pas? C'était son assistant, non? Il était brisé.
Comme pour lui dire, ne me demande pas de le ressusciter. Il est
mort. Ben oui.
Si Dieu déclare qu'il est mort, c'est fini. Ne me demande pas de...
Parce qu'il aurait pu dire, oui, mais qui va nous amener jusqu'en terre promise? Nous n'avons personne. Moi, je n'étais que son assistant. Nous avons quelques vieux ici, mais bon, moi, je les connais. Mon maître, là, a beaucoup souffert avec ses anciens.
Pas les nôtres. Les nôtres sont sages.
Ils l'ont fait souffrir. Je connais.
Le Seigneur lui dit, Moïse est...
Fini, oublie. Je l'ai repris. Il est avec moi ici.
Maintenant, c'est toi.
Vous pouvez vous imaginer un peu le jeune homme. Vous voyez, c'est ça. C'est notre tour. Si toi et moi, nous ne le faisons pas, personne ne le fera. Et notre génération s'en ira sans avoir eu ni l'occasion, ni l'opportunité de voir que Jésus est le même. Hier, aujourd'hui et... Donc, s'il n'y a pas de miracle, c'est de ta faute, c'est de ma faute. Alors, mon ami, mon frère et ma sœur,
restaurer, rétablir l'autel afin de laisser une empreinte vivante. Restaurer l'autel pour amener les gens à comprendre que le Jésus d'hier est encore le Jésus d'aujourd'hui. Pour qu'ils comprennent que le Jésus qui a agi il y a 2 siècles, qui a agi il y a 3 siècles, qui a agi il y a 2000 ans, est encore le même aujourd'hui. Non seulement en leur disant cela, mais en leur démontrant. Voilà pourquoi Paul, quand il est parti chez le Corinthien, il leur dit, « Mais je ne suis pas venu avec une certaine supériorité en ce qui concerne la sophia, la sagesse. » Non, mais ma prédication, mon enseignement, reposait non pas sur des méthodes de rhétorique ou d'éloquence latine, mais ma prédication reposait sur une démonstration de puissance. Afin que votre foi, gloire à Dieu, afin que votre foi soit fondée sur la puissance de Dieu, et non pas sur des discours théologiques, et non pas sur des élucubrations bibliques, et non pas, mes amis, sur je ne sais quelle pratique, mais plutôt sur une démonstration de puissance. C'est votre devoir, c'est mon devoir, de tout faire, de rechercher. Et pour cela, il faut que l'autel soit restauré. Il faut que le feu descende. Car le feu, eh bien, voilà comment Dieu se manifeste. Quand le feu est descendu dans la chambre haute, après que l'autel a été dressé, eh bien, nous voyons les miracles. Pierre parle, même la parole qu'il connaissait bien, attention, hein, il cite Joël de mémoire, hein. Quand il dit, c'est ainsi que le prophète Joël avait dit, eh bien, l'esprit, etc., il cite ça, donc il connaissait cette parole. Mais avant la Pentecôte, vous pensez qu'il l'avait oublié? Voyez le feu qui rend actuelle la parole de Dieu. Ce qu'il connaissait par la tête, ce qu'il connaissait de manière religieuse devient tout d'un coup une réalité. Alléluia. Et il annonce, et il proclame, les gens se convertissent en leur disant, Jésus est ressuscité, il est mort. À une occasion, ils allaient au temple. Il y avait là la porte dite la belle. Comme il y avait plusieurs portes pour accéder au temple, il y avait là un homme impotent, un paralytique, qu'on amenait pour qu'il tende sa main, qu'on lui donne l'aumône. Voyez-vous? Et c'est comme ça que cet homme vivait. Mais lorsque Pierre et Jean arrivent, l'homme leur tend quoi? La main. Il leur regarde avec compassion. Vous avez peut-être déjà vu ces gens, ces pauvres, qui n'ont pratiquement rien, ou même des enfants, des aveugles qui viennent vers vous. Voyez, qui vous tendent la main, ça touche. Voyez-vous? C'est exactement la même chose. Ils ont été touchés, ils se sont arrêtés. Qu'est-ce que Pierre dit? Nous n'avons ni or, nos poches sont vides. Nous n'avons rien, mais ce que nous avons. Nous te le, au nom de Jésus, lève-toi et, au nom de Jésus, la démonstration de puissance, gloire à Dieu. Mes amis, c'est notre devoir. Il ne suffit pas de rendre témoignage à la puissance de Dieu dans le jour passé. Oh, nous nous souvenons, c'est bien, on peut parler du passé. L'homme, avec sa mémoire, c'est un être qui vit avec son passé, il vit son présent, il est aussi tourné vers le futur. Vous ne pouvez pas, on n'est pas comme un disque dur, là où vous pouvez tout effacer, tout est parti. Oui, lors de certains chocs traumatiques, etc., des traumatismes cérébraux ou autres, il peut se faire que tout, la personne oublie tout. Mais un homme normal, ben, il a son passé, il a son présent, il a le futur devant lui. Nous ne pouvons pas tout oublier. Mais nous devons savoir une chose, que nous ne pouvons pas toujours essayer de rendre témoignage à la puissance de Dieu telle qu'elle s'est manifestée dans le passé. Et on a vu des gens aller de ville en ville, simplement pour dire comment Dieu les avait délivrés il y a 20 ans des pratiques occultes. Oui, mais après. Et aujourd'hui, le Dieu que nous servons, le Dieu d'Élie, eh bien, c'est le Dieu d'aujourd'hui. Alléluia. Ce qu'il a fait hier, avant-hier, il l'a fait
il aimerait faire davantage aujourd'hui. Et comme je vous avais dit, c'est dans la nature de Dieu de faire plus aujourd'hui qu'il l'a fait hier. Et d'en faire encore davantage demain qu'il en fait aujourd'hui. Alors c'est nous, mes amis. Nous devons entrer dans cette relation qui nous permet de vivre tout cela. Le monde, un croyant qui nous entoure, a besoin de voir une démonstration vivante de la puissance de Dieu. Oh, telle a été la prière d'Élie. Aujourd'hui, Seigneur, pas demain, aujourd'hui. Il s'est tenu, il a relevé l'autel, il a rétabli, il a restauré, il a mis le sacrifice en taureau. Et résultat, Dieu a envoyé sa puissance. Alléluia. Mes amis, la restauration de l'autel est une nécessité. Voyez, il a fallu qu'il rétablisse l'autel. Il a fallu qu'il restaure l'autel. Il a fallu qu'il agisse comme la parole de Dieu le lui demandait pour qu'enfin le peuple non seulement voit cette démonstration de puissance, mais arrive enfin à confesser que le Dieu d'Israël est le seul Dieu. Alléluia. Que le Dieu d'Israël est le Dieu véritable. Et où nous aujourd'hui? Pensez-vous que c'est différent? Les gens ont besoin de voir le Seigneur à l'œuvre aujourd'hui. Les gens ont besoin de voir Jésus, mes amis, accomplir des miracles aujourd'hui. Les gens ont besoin de voir Jésus, eh bien, leur accorder la grâce aujourd'hui. Les gens ont besoin de vivre et d'expérimenter les merveilles de Dieu aujourd'hui, mes amis. Pas demain, car il est le Dieu qui est. Il a été, certes. Il le sera, certes. Mais il est d'abord ce qu'il est aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Élie a simplement restauré l'autel. Élie a simplement, mes amis, agi selon la parole de Dieu. Élie avait compris la nécessité, la place, le besoin de redresser, de rétablir, de restaurer l'autel du Seigneur. Il a fait, selon la parole de Dieu, eh ben, Dieu a fait sa part. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a envoyé le feu. Qu'est-ce que Dieu a fait? Il a simplement manifesté sa puissance et sa gloire. Qui a eu raison de ce prophète de Baal. Qui a eu raison du peuple. Et enfin, ce peuple qui ne savait où aller. Qui était comme un troupeau sans berger. Oui, évidemment, ils n'avaient pas de berger, car leur véritable berger, c'était Adonai. Ils se sont retrouvés sous la direction, la conduite de toutes sortes d'aventuriers, prophètes de Baal. Ils ne savaient plus où aller. Mais il a fallu qu'il y ait une démonstration de puissance pour qu'ils montrent, qu'ils voient, qu'ils réalisent qu'effectivement, Adonai était le seul véritable Dieu. Mes amis, rien qu'avec cet exemple, nous voyons le besoin, nous voyons la nécessité de pouvoir restaurer l'autel. Car l'autel, c'est le lieu où nous communions avec le Seigneur. L'autel, c'est le lieu où le Seigneur manifeste sa gloire. L'autel, c'est le lieu où l'homme réalise véritablement qu'il a été sauvé, qu'il est accueilli devant Dieu par grâce et seulement par grâce. L'autel est le lieu, mes amis, où, eh bien, son héritage est revalorisé. Alors, réalisons ce besoin et mettons-nous à restaurer l'autel de Dieu. Alléluia. L'autel du Seigneur. Je voudrais m'arrêter aujourd'hui. Je pensais que j'allais prendre le deuxième exemple dans le Nouveau Testament, mais il est 19h30. Nous allons donc continuer demain, mais je voudrais, le peu de temps qui nous reste, que chacun de nous puisse se tenir devant Dieu. Et je vous prie de vous lever. Que chacun de nous réalise le besoin qu'il y a à restaurer l'autel. L'autel dans notre cœur, car nous en reparlerons. L'autel dans notre vie. Commence à prier. Commence à invoquer le Seigneur par rapport à cela. Car tu as besoin d'être un signe pour cette génération. Tu as besoin de vivre une démonstration de puissance pour montrer à ceux qui vivent avec toi
que ton Jésus est encore vivant aujourd'hui, que ton Jésus n'a pas changé. Alors tous ensemble prions. Alléluia. Gloire à Dieu. Oh, gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Aide-nous à restaurer l'autel parmi nous, Seigneur, et dans nos vies. Car c'est là que tu nous rencontres. C'est là qu'ô Dieu, tu nous démontres ta puissance. Oh, alléluia. Ô Dieu. Ô Seigneur, aide-nous à restaurer l'autel. Aide-nous. Gloria. Oh, alléluia. Gloire à toi. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi. Passe dans le rang. Kabayikonko Shikabayasanda. Gloria Baba Konko Shikabayakenga. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Jésus, pour ta grâce. Aide-nous à restaurer l'autel au milieu de nous, Seigneur. Aide-nous à restaurer l'autel dans nos vies. À renverser les différents autels. Les autels de la chair. Les autels du moi. Alléluia. Jésus. Gloire. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Nous allons garder un moment de silence devant le Seigneur. Il ne devrait y avoir qu'un seul autel dans notre cœur. Celui qui est consacré à notre Sauveur bien-aimé Jésus-Christ. Il ne devrait y avoir d'autres sacrifices que notre propre moi. Comme nous le verrons, celui qui doit être mis sur l'autel. Afin que ce moi rebelle, ce moi égoïste, égocentrique, puisse mourir. C'est dans la mesure qu'il mourra qu'alors Dieu enverra le feu dans notre cœur. Nous devons dresser l'autel au milieu de nous après l'avoir dressé dans chacun de nous. Nous devons restaurer l'autel au milieu de nous après l'avoir restauré dans nos cœurs. Car nous sommes parmi nous et avec nous ce que nous sommes d'abord en privé. Si nous traînons derrière nous toutes sortes de casseroles, toutes sortes d'autels consacrés au dieu argent, au dieu sexe, au dieu plaisir, eh bien, il sera difficile, mes amis, même si nous prions, nous jeûnons, il sera difficile d'expérimenter ce que Élie a expérimenté sur le mont Carmel. Il sera difficile d'être embrasé par le feu de Dieu. Et sans feu de Dieu, il est difficile de vivre pleinement la divinité du Christ en nous. Il est difficile de vivre et d'expérimenter sa puissance au quotidien. Alors que chacun, à partir d'aujourd'hui, commence à regarder à lui-même, à faire une sorte d'introspection et voir qui occupe la première place dans sa vie. Et si ce n'est pas le Seigneur, c'est que c'est un autre autel qui est dressé dans le cœur. Alors prends la décision de briser cet autel, de le renverser. Et désormais construis l'autel avec le Seigneur et pour le Seigneur. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Et nous te prions de nous aider à intégrer déjà tout ce que nous venons d'apprendre concernant, Seigneur, la nécessité de restaurer l'autel. Car c'est à l'autel, ô Dieu, que nous pouvons communier avec toi. Le monde a besoin, Seigneur, de voir une démonstration de puissance dans notre vie. Nous devons être un signe pour notre contemporain. Nous devons être en mesure, Seigneur, de démontrer l'actualité de tes promesses. La manifestation de ta majesté et de ta gloire aujourd'hui. Et pour cela, nous avons besoin de ton feu. Et ton feu ne descend que là où il y a le sacrifice. Alors donne-nous de mourir à nous-mêmes, en portant ta croix et en marchant derrière toi. Merci Seigneur. Amen. Veuillez vous rasseoir.